Alors, Monsieur Leblond, bonjour. Merci d'accepter de répondre à cette interview téléphonique en cette période de confinement. Donc, vous savez que la classe de première AS du lycée Thomas Pesquet de Coutances, elle participe au concours de la résistance qui a pour thème cette année 1940, entrer en résistance, comprendre, refuser et résister. Et nous avons choisi de partir de la plaque commémorative qui se trouve au Passous à Goncoutainville et nous avons travaillé à partir de l'itinéraire de René Duval qui est cité sur cette plaque. Donc j'ai regroupé les questions des élèves pour vous en poser trois. Alors tout d'abord, Monsieur Leblond, est-ce que vous avez connu René Duval? Et donc il y aura finalement deux questions dans une. Est-ce que vous avez connu René Duval et pourquoi s'intéresser à lui?
Ah ben, très bien connu René Duval, et y compris un de ses compagnons d'ailleurs, le plus jeune, qui était Jean Renoux. Bon, les autres, malheureusement, ils avaient disparu. Hein, ils étaient quand je suis arrivé, puisque j'ai pris la délégation de la Fondation de la France Libre pour le département de la Manche en arrivant ici en retraite en 2001. Bon, alors, le premier devoir d'un délégué de cette fondation, c'est de faire connaissance avec tous les Français libres qui restaient encore en vie à cette époque-là. Bon, et naturellement, c'est tout à fait naturel qu'on s'intéresse à ceux qui sont les plus proches de vous, hein. Et on se regroupait pour aller aux commémorations ou pour parler d'histoire, de leur histoire et de l'histoire en général. Voilà. Alors, j'ai très bien connu René Duval. Alors, René Duval est en fait l'initiateur de cette évasion des cinq, hein, des cinq premiers. Parce que sur les six qui sont partis du Passon, hein, le sixième, bon, est arrivé à la dernière minute, hein, du lieu où il était, entre guillemets, caché tout en étant en vacances, hein, ici à Blainville, à la Palière, là, hein, dans la famille, attendez, la famille Le Tellier. Voilà, alors, qu'est-ce que je peux vous en dire beaucoup, c'est sûr.
Alors, pourquoi s'intéresser plus particulièrement à lui?
Mais je ne me suis pas intéressé plus particulièrement à lui. Je me suis intéressé à tous ceux qui ont eu le courage de s'évader de la Manche, puisque c'était mon devoir de les connaître tous. Hein. Et à partir de lui, bien sûr, j'ai connu l'histoire des six, hein, en détail. Et toute cette histoire, magnifique histoire, j'ai pu la recouper après avec les historiens officiels et permanents de la France libre.
Alors, est-ce que vous pouvez nous dire aussi quel rôle vous avez joué au niveau de cette plaque commémorative qui a été donc posée, je crois, en 2014 à Goncoutainville, et comment se transmet encore aujourd'hui la mémoire de la France libre?
Alors, ben, ça c'est une très très bonne question. Bon, ben, je suis l'initiateur de cette plaque, parce que j'estimais que pour rappeler l'histoire, faire devoir de mémoire, c'est faire d'abord devoir d'histoire. Pour que les gens se souviennent, eh bien, il faut qu'on leur raconte des histoires qui se rapportent à tous ceux qui ont participé à cette grande épopée de la France libre. Alors, je suis effectivement l'initiateur de la pose de cette plaque, qui était la première étape, la moindre des choses, parce que c'est normal qu'on se souvienne des 43 qui se sont évadés de la côte est, de la côte ouest du Cotentin pour rejoindre les îles anglo-normandes dans le but de rejoindre l'Angleterre. Hein, y en a 43 qui se sont évadés de la côte ouest du Cotentin. Alors, à titre informatif, hein, dans l'ordre des dates, les tout premiers sont partis de Goury le 18 juin, hein, par la vedette des ponts et chaussées. De Valognes, un autre qui est parti en périssoire, une périssoire à deux postes de Ram, qui est parti vers Origny aussi. Il faut le traverser, le Ram Blanchard, au bon moment. Hein. Et donc, ça en fait 5. Là, qui est, non, ça en fait 5. Ensuite, il y en a eu 7 qui sont partis en deux vagues depuis Carteret. Hein. Carteret, dont les trois derniers qui sont arrivés dans la nuit du 28 au 29 à Gorée pour arriver en même temps que les Allemands. Il a fallu qu'ils restent, qu'ils se cachent pendant 2 mois à Jersey et qu'ils se réévadent de Jersey à la fin du mois de d'août pour arriver à Dartmouth et être présentés devant le commandant de l'école navale de la Royal Navy à Dartmouth. Ensuite, eh bien, vous avez les six d'Agon-Coutainville, là. Mm-hmm. Et puis, le gros paquet est parti de Granville, hein, le reste, c'est-à-dire les 25, ils sont qu'est-ce que je dis ? Oui, c'est ça, 25, ils sont partis du port de Granville, toujours à la marne des Allemands. Hein. Les Allemands sont sur le port, hein, ils sont partis en 4 voyages. Quatre voyages pour les premiers pour Chauzet, qui ont repris la vedette de Saint-Malo pour aller jusqu'à Jersey. Et les autres sont partis directement pour Jersey, in extremis, parce que c'était des bateaux qui sont partis le 27. Hein, le 27, il était grand temps. Quoi. Ils sont partis avec le dernier petit cargo mixte qui est allé se faire mitrailler dans le port de... à Saint-Pierre à Guernesey, ils ont eu leur premier mort sur lequel le bateau, sur lequel était d'ailleurs
René Duval, ouais.
Comment Duval et les autres et 5 autres, et ils ont eu leur premier mort là, Mauduit qui était de Granville, qui a été tué mitraillé par les avions allemands sur le pont du cargo. Voilà.
Très bien, merci pour les précisions. Donc c'est effectivement un passage qu'on a travaillé en classe. Hein, c'est le départ de René Duval à partir de ses mémoires qu'il a rédigées.
Bien sûr, bien sûr. Alors, ils sont pas très nombreux à avoir écrit leur histoire. Bon, souvent c'était fait un peu vite, donc il peut y avoir des imprécisions. Mais ce qui est extraordinaire, alors avec Jean Renaud, Duval n'a jamais bougé dans son affectation. Il était à la 101e compagnie auto. Hein, et ils sont toujours restés ensemble. Ils sont toujours restés ensemble. Et Duval a connu un événement donc extraordinaire. Parce que c'est absolument un événement extraordinaire. Il a fait partie des volontaires qui ont accepté d'aller ravitailler le camp retranché de Bir Hakeim, le camp retranché de Bir Hakeim, c'était 3700 Français, je dis. Il y avait 53 nationalités qui étaient représentées à Bir Hakeim. 53. 53 nationalités étaient donc parmi les 3700 volontaires qui se battaient pour la Francie, mais surtout qui se battait pour une France idéale, hein, c'est-à-dire la France morale, la France des droits de l'homme. Hein, il y avait des gens de toutes les obédiences, de toutes les confessions, c'était quelque chose d'extraordinaire. Hein, bon, extraordinaire. Et dans les derniers jours, les derniers moments, hein, il manquait de munitions. Et le commandement décide d'aller ravitailler, de faire un ultime ravitaillement, parce qu'il y avait quand même 35 000 anglo-allemands, italo-allemands, qui encerclaient le camp retranché. Et Duval a fait partie des volontaires qui ont accepté, avec un convoi de 12, une douzaine de véhicules, je crois qu'ils étaient pas plus de 12-15, ont accepté de nuit, avec deux guides qui connaissaient très très bien les champs de mines et les endroits où on pouvait encore passer, en connaissant vraiment. vraiment bien le terrain. Et ils ont réussi à rentrer dans Bir Hakeim en apportant donc des munitions et de l'eau. Et de l'eau. Et ils se sont donc retrouvés enfermés dans Bir Hakeim. Complètement enfermés. Et puis, le lendemain, est décidée la sortie de vive force. Et les 12 camions ont réussi à rentrer de nuit sans qu'il n'y en ait aucun détruit. Et on avait besoin à tout prix pour la sortie de vive force de tous les moyens roulants du camp retranché qui étaient tous ces moyens roulants, que ce soit les chenillettes, les braines carrières qui étaient camouflées, très enterrées pour être bien protégées, que ce soit les camions, c'était des petits camions, avec simplement un essieu à l'arrière, ce qui était ça avait un avantage et un inconvénient, c'est que quand on était ensablé, c'était pas facile de les désensabler. Et puis c'est grâce à ces véhicules-là qu'ils ont pu embarquer tous les blessés et dans la sortie de vive force. René Duval, comme Jean Renaud, ils ont eu à embarquer tous les blessés graves. Il avait 30 blessés graves dans la caisse de son camion. Et au moment de la sortie, bien sûr, il y avait des véhicules qui sautaient sur des mines, et les Allemands qui tiraient, et surtout qui tiraient, avec des mitrailleuses ultra-modernes, qui avaient une cadence de tir de 1400 coups minute. Cadence de tir théorique, bien sûr. C'est une cadence de tir énorme, énorme. Et à comparer avec celle des mitrailleuses alliées qui tiraient entre 300 et 600 coups minute. Hein, la comparaison est vite facile. Alors, c'était l'effet comme si c'était un coup de scie, vous voyez. Alors, ces mitrailleuses-là, dans les moteurs, quand elles tiraient dans les moteurs, eh bien, c'est comme si elles sciaient d'un seul coup les radiateurs des moteurs et coupaient tout. Vous voyez, alors, les véhicules étaient immobilisés. Et qu'est-ce qui s'est passé avec le véhicule de Duval, de René Duval? Eh bien, il a eu la courroie de son ventilateur de véhicule qui a été coupée par une rafale de mitrailleuse. Mais par miracle, le radiateur n'a pas été abîmé. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Comme tout bon soldat, la mission prime tout, c'est-à-dire sa mission à lui, c'était de conduire, même sous le feu, les blessés au point de ralliement qui avait été fixé avec une balise par les Anglais à 12 km à peu près du camp. J'y suis allé, c'est pour ça que je peux en parler de façon précise. Et il dit, je ne peux pas continuer sans ventilateur dans le désert, c'est foutu. Eh bien, il a eu le courage, c'est ça qui était... Le courage de prendre une clé à molette, quelques outils, qu'il avait sous son siège, et puis il est allé démonter la courroie de ventilation d'un camion qui brûlait à 200 mètres du sien. Et puis sous le feu, il l'a démonté, puis il est venu la remonter sur le sien. Et une fois que ça a été terminé, il reprend sa place. Et puis il y avait un tirailleur, un Sénégalais qui s'était mis debout sur le marchepied. Il y avait deux officiers qui s'étaient mis aussi debout sur le marchepied. Il ne leur a pas prêté attention non plus, quoi. Et puis le moteur ne démarre pas, puis tout d'un coup, il y a des officiers qui prennent sa clé à molette et qui tapent un coup sur la tête de Delco, puis ça y est, ça démarre. Bon. Et avec ça, ils sont arrivés, ils ont réussi sous le feu. Ce qui les a sauvés aussi, c'est le brouillard, parce que c'est un coin où le brouillard se lève dans la nuit. Ils ont été dans le brouillard, au milieu des Allemands. Ils sont arrivés à faire le parcours des 10 km grâce à un médecin qui était avec eux, qui avait une boussole et qui a pu les guider avec l'azimut qui avait été donné au moment du départ. Et le camion était tellement criblé de balles et d'obus, il avait même un obus anti-char entre la caisse du camion et sa cabine, qui était resté coincé. coincé dans la roue de secours. Et quand le camion est arrivé, que les Anglais les ont débarqués pour prendre tous les blessés dans les ambulances et les camions propres, après leur avoir donné à boire et puis un peu à manger, hein, ben le camion était dans un tel état qu'il n'a pas pu redémarrer. Il est resté sur place. Un véritable exploit, ça.
Ouais, je crois que c'est relaté dans ses mémoires. Il parlait aussi beaucoup des contraintes liées au sable. En dehors de cette
la grosse contrainte est au sable, ouais. Très grosse contrainte
tout à fait. Au sable.
Et elle est au sable. Et puis surtout, ils avaient tous peur, surtout ceux qui étaient dans la compagnie de transport. Parce qu'il avait quand même 100 véhicules dans sa compagnie de transport. Hein. C'était ce qui était attaché à une brigade, parce que les Français libres, au moment de Bir Hakeim, n'avait pu mettre sur pied que deux brigades. Alors c'est quoi deux brigades? Deux brigades d'infanterie motorisée, c'est un peu plus de 5000 hommes, 5500 hommes. Vous voyez? Et à Bir Hakeim, à la brigade, alors il y avait la première brigade donc était à Bir Hakeim, et il y avait une deuxième brigade qui était à l'arrière, qui venait de se constituer. Alors le temps qu'elle arrive à être opérationnelle, il a fallu un petit peu de temps. Bon. Et à Bir Hakeim, il y avait 3700 hommes qui étaient vraiment les opérationnels, donc les fantassins, les artilleurs, les gars du génie, enfin bon, les transmetteurs, enfin, tous ces gens-là, parce que la bataille de Bir Hakeim, elle a été gagnée par les artilleurs et par les gars du génie. La combinaison des deux a fait que leurs lignes ont été vraiment infranchissables. Ils se sont d'ailleurs inspirés de la technique de Vauban, avec des champs de mines qui étaient mis en forme de bastions et de redoutes, et avec des feux anti-chars qui tiraient devant ces bastions et ces redoutes. Et ils ont réussi à canaliser les forces blindées italiennes et allemandes, puisque la première attaque, les Italo-Allemands ont été cloués sur place, quoi.
Et pouvez-vous nous parler, parce que j'ai des élèves qui habitent le secteur de Granville, et pour revenir justement à cette question d'aujourd'hui, visuellement, comment transmettre la mémoire à la française. Je crois que vous êtes aussi à l'origine d'un projet dans le secteur de Granville, et je voulais savoir si, pour terminer, vous pouvez nous en parler un petit peu. Ouais.
Alors, on a eu une opportunité à Granville, qui est venue de la ville de Granville, de réaliser ce que l'on voulait faire, et ça a été une expérience test qui a eu un succès absolument total. Ça, je vais vous l'envoyer par Internet. Alors c'est quoi? C'est un monument qui est centré sur la Croix de Lorraine, parce que la résistance, tout le monde, que ce soit les gens de la résistance extérieure ou ceux de la résistance intérieure, unifiés grâce à l'action du préfet Jean Moulin, qui était le délégué du général de Gaulle en France métropolitaine, le symbole de la résistance, c'est la Croix de Lorraine, intérieure comme résistance extérieure. Bon. Et ce monument, donc, ça représente un bateau avec deux voiles, et la mâture, c'est une Croix de Lorraine que l'on voit en contre-jour avec comme fond de tableau Chausey et Jersey. Alors, il y a un épitaphe, et ce sera l'épitaphe qui sera commun à tous ceux que nous allons réaliser, parce qu'il y a un programme sur 6 ans. On va essayer de... Il est lancé, le programme, d'ailleurs. On va essayer de réaliser 8 à 9 monuments au total. Et il y a un programme. L'épitaphe sur le monument, c'est 18 juin 1940. C'est l'acte fondateur de la résistance française. Et on met hommage et reconnaissance aux Français libres et aux résistants de l'intérieur. Et puis bien sûr, la date finale, c'est la victoire, 8 mai 1945. Et ce, animal est accompagné d'un ou deux pupitres pédagogiques qui expliquent, qui rappellent la définition de la résistance, tout ça en français et en anglais, et qui rappellent l'histoire de la résistance locale, locale, avec la liste des noms des groupes de résistants qui ont existé localement, et puis on marque un, une ou deux, suivant la situation, actions marquantes de cette résistance. Alors, vous irez, vos élèves iront voir ce monument à Granville, parce que actuellement nous sommes en train de travailler sur trois projets. Si les élections municipales étaient terminées, on irait encore plus vite. Mais là, ça nous retarde encore, mais c'est pas grave, il y a de quoi chercher. On vient de faire l'inventaire de tous les résistants du Coutançais, mais du Grand Coutançais. Ce que j'appelle le Grand Coutançais, parce que localement, la résistance dans le coin de centrée sur Coutances, Saint-Malo, Zalande, elle était articulée en trois grands groupes, tout ça commandé par un certain capitaine Lenoir, originaire de Géfos, un capitaine de Lenoir qui avait fait la guerre de 14-18, qui était encore en bon état. Et il avait trois adjoints, un adjoint à Perrier, pour le canton de Perrier, il y a un important groupe de résistants à Perrier sur les communes environnantes. Un autre groupe important ici avec l'ancien notaire Maître Quétier, qui avait la charge sur tout le coin de Saint-Malo de la Lande et environ. Et puis à Coutances, un groupe très important sous la responsabilité d'un nommé Le Boisselier. Et au total, tous les résistants qui ont accepté de servir, ces gens-là ont fait un travail que l'on n'imagine pas quand on ne plonge pas dans le détail de tout ça. Alors on ne peut pas retenir le détail. Le détail, on doit le trouver dans les livres. Mais il y a quand même quelques éléments essentiels qu'il faut retenir. Alors, vous allez voir comment on revient à 1940. C'est que nous avons donc identifié, mais là où on travaille, c'est pour arrêter les listes, parce qu'il faut qu'on croise des informations, et ça c'est très très long, c'est très très long. Et quant aux actions que nous allons retenir, eh bien on a décidé de mettre en valeur le travail des passeurs, c'est-à-dire ceux qui ont fait franchir les lignes, soit des aviateurs alliés qui avaient été abattus dans la région, pour retrouver les Américains au-delà de la ligne de front qui, en juin et juillet 44, se baladait entre Saint-Germain-sur-Aix et Perrier, laissait Perrier. Qui ont fait franchir les lignes à des résistants, à des personnalités qui étaient recherchées. Bon. Et ça demandait un courage extraordinaire. Pourquoi ? Parce que il fallait porter les bateaux des Doris avec la marée descendante le plus loin possible en mer pour le mouiller à marée basse, pour se déplacer en mer du nord au sud, pour partir. En gros, ils partaient du Havre de Blainville et de la baie de Chienne ou du Havre de Blainville. Ils allaient déposer leur cargaison donc au-delà de Saint-Germain-sur-Aix. Bon. Et puis ils se sont aperçus que c'était épuisant de porter les bateaux. Alors les passages qui se sont suivis après, eh bien ils le faisaient à pied sur l'estran, c'est-à-dire qu'ils partaient avec la marée basse qui descendait, et jusqu'à l'eau à la ceinture, eh bien ils marchaient pendant 25 km. Pour aller derrière les lignes, et puis bien sûr, il fallait revenir par le même trajet pour les passeurs.
Quand on imagine un peu le poids d'un Doris en bois.
Ah oui. Ah. en évidence, parce que ça alors il y a eu comment là, ils sont 8 ou 10 Américains qui ont été sauvés comme ça, enfin bon, on n'imagine pas le travail, ce que c'est, mais, et puis surtout que pour ça impliquait beaucoup de familles, parce que il fallait cacher les gens, fallait les habiller, fallait les nourrir, hein, de peur qu'il y ait une indiscrétion, fallait les changer de cache, fallait les approcher de la côte, fallait, alors ça réimpliquait d'autres familles, des relais, ça a impliqué aussi ceux qui servaient d'agents de liaison, hein, pour les conduire d'un point à un autre, ouais. Voilà. Alors, il y aura un monument qui sera réalisé. Le monument, parce que beaucoup pensent déjà que le lieu est déjà trouvé, parce qu'il faut que ce soit placé à un endroit où il y a beaucoup de passages pour que non seulement nos contemporains voient, hein, mais que nos visiteurs extérieurs, et on pense surtout aux visiteurs nord-américains, il faut qu'on ait un site où on puisse implanter un joli monument avec une belle croix de Lorraine et avec pupitre pédagogique. Alors on a déjà des idées, mais ça il faut que ce soit négocié, discuté avec les municipalités, les nouvelles municipalités, impératif, hein. Voilà. Et surtout, une fois qu'on a une première esquisse, ben vous en entendrez parler. Nous irons faire des conférences de presse. Ah, et là, j'en vois trois qui sont incontournables. Conférences de presse, on en fera une à Coutances, une dans le coin d'Agon, Coutainville, Saint-Malo de la Lande, j'en sais rien où, mais, et une à Perrier. Et on fait appel à la population pour que la population réagisse sur les listes que nous avons dressées, hein, et que nous sommes en cours de finition. Parce qu'on peut toujours oublier quelqu'un, et puis la population a toujours des documents à nous apporter. Vous voyez ?
Très bien.
Et ça, on va le poursuivre à Valogne, parce qu'à Valogne, c'est hyper important. Parce qu'à Valogne, il y a eu un grand seigneur qui était un officier de renseignement, enfin de réserviste, il n'était pas militaire de carrière, de l'armée de l'air qui a implanté les groupes actions de l'organisation civile et militaire dans plus des deux tiers des cantons de la Manche. Et puis il y avait une équipe de Français libres remarquable aussi. Alors, et puis l'autre qui est en cours de travail, là, d'études, hein, c'est le secteur du Tabitch. Et on poursuivra, il faudra le faire à Salo, à Avranches, ils sont prêts à le faire, parce que là, il y a eu un très très gros travail des résistants FTP du coin qui ont freiné l'arrivée des renforts allemands sur le front. Enfin,